C'est après quatre longues pages, difficiles et précises, de recommandations que Paul donne quelques lignes de réconfort pour exhorter les Éphésiens à se parler par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, donc pas n'importe lesquels, et cela pour rendre grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est Dieu et Père. L'apôtre Paul a écrit ses lettres aux Éphésiens vers l'an 54. Beaucoup d'experts pensent que Paul n'est pas l'auteur de celle-ci, car chose étrange, elle ne contient pas cette fameuse lettre des Éphésiens, la traditionnelle salutation personnelle du début de la plupart des lettres de Paul. Personnellement, je me suis fait la remarque en lisant cette lettre aux Éphésiens. Je me suis dit, c'est vrai, cette salutation paulinienne, qui est souvent une partie que j'apprécie chez Paul, n'y est pas. J'apprécie la salutation de Paul parce qu'elle est souvent affable, cordiale, personnelle et humaine. Ensuite, ces lettres deviennent parfois, pour moi, très moralisatrices et sentencieuses. Il m'arrive d'avoir de la peine à poursuivre la lecture. Je dois m'accrocher. Cependant, je comprends qu'on puisse y trouver du réconfort pour sa foi et que ça puisse nous parler pour notre Église d'aujourd'hui. En ce qui concerne donc cette lettre aux Éphésiens, d'autres experts pensent qu'elle n'était pas destinée seulement à l'église d'Éphèse, mais à tout un groupe d'églises de cette région qui est actuellement en Turquie. Éphèse est alors sous la protection de la puissante déesse Artémis. Dont le temple est quatre fois plus grand à l'époque que le Parthénon d'Athènes. On peut imaginer que c'est vraiment un très très grand édifice. La ville compte à l'époque plus de 300 000 âmes, mais bien entendu, Paul ne s'adresse pas à toutes et tous ses habitants, mais à une minorité qui s'est convertie au christianisme, ou en passe de se convertir, ou non. Enfin, ils hésitent parfois. Et puis aussi aux Juifs qui sont présents à Éphèse. Il est dit aussi que cette lettre contient tout le corpus paulinien, parce qu'à elle seule, elle résume la doctrine de l'apôtre sur la foi, les œuvres et la Trinité glorieuse, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, si vous êtes une lectrice ou un lecteur des lettres de Paul, vous serez peut-être frappé par son autoritaire et froid, par son autoritaire froideur dans cette lettre précisément. Souvent, quand Paul utilise ses manières de dire, c'est que la communauté manque à ses yeux de quelque chose. Pas assez fervent dans la foi. Trop vicieux, trop immoraux. Pas assez sérieux quant à leur croyance, quant à leur idéologie par rapport à Jésus-Christ ou par rapport au concept, je dirais de manière moderne, de la résurrection. Et Paul a beaucoup de travail avec ces différentes communautés et surtout comme il a été un voyageur extraordinaire, il en a beaucoup qui sont répartis entre la Grèce, la Turquie et puis l'Europe, la Rome actuelle. Mais maintenant, prenons ce message que je viens de vous délivrer pour aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous sommes. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de travail à faire dans nos églises. Paul n'est plus là pour nous exhorter à une foi et à une croyance plus affermies. Pourtant, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ensemble, dans cette église de la Blanche Église. Comme d'autres chrétiens le sont également dans d'autres églises en ce moment précis. Je trouve que nous avons aussi de quoi faire avec le chant. Je trouve du sens, de la joie à chanter. Ces cantiques sont évolutifs, sont à évoluer peut-être. Nous avons fait tout à l'heure le 23-01, qui est également un vieux psaume, le psaume 62, si je ne m'abuse. Le psaume 42. Ce psaume, vous le connaissez avec le cerf qui appelle à l'aide Dieu. Et nous l'avons fait dans une version déjà plus moderne, on peut dire, en le chantant avec d'autres paroles, qui sont des paroles qui ont été adaptées pour la liturgie de baptême. Donc dans notre église, nous avons encore aussi du travail pour les chants. Pour moi, même les psaumes ne sont pas obsolètes. Nous avons encore quelque chose à faire avec ces chants qui nous viennent de la réforme de 1552 et qui, à travers les siècles, nous sont arrivés et continuent encore de venir jusqu'à nous, à voir comment ils parleront à la jeunesse protestante, à voir comment on peut leur faire chanter cela. Nous avons beaucoup de travail dans notre Église. Chanter ensemble, et ce plus est dans des lieux adaptés, pour porter et faire résonner les voix, comme ici. C'est encore, je trouve, le meilleur moyen de louer Dieu. Et de s'affermir aussi dans sa foi. Certes, nous ne chantons plus à quatre voix. Peut-être parmi vous, certains se rappellent encore de ces cultes où nous faisions spontanément, il me semble en tout cas, au moins là-bas, c'est le soprano. Je vois aussi, quand nous avons chanté le premier chant, qui était « Que Dieu se montre seulement », que la deuxième partie est un peu haute pour certaines voix. Il y aurait aussi du travail à faire avec cela. Et oui, beaucoup de ces cantiques ne sont plus très connus de nous toutes et tous. Enfin, et ce sera mon message de fin pour aujourd'hui, si vous les connaissez, je vous encourage à chanter fort et généreusement, sans juger votre voix, ni votre capacité à chanter, plus ou moins juste, plus ou moins faux. Allez-y, chantez. Exprimez de cette manière votre douce et véritable foi, votre esprit de communauté, et selon les mots de Paul, célébrons ensemble le Seigneur de tout notre cœur. Amen.